Naturel, Père Philippe, 16 décembre 1982, Rimont.
Je dis tout de suite cette question. Tout jugement possède une appréhension. Quelle est la même, quelle est la nature de cette appréhension dans le jugement d'existence qui me fait toucher l'être premier au terme de la démonstration a posteriori? Nous y reviendrons, ça. Hein? Attendez la lumière. Hein? Et il y a un grand désir de la lumière, vous y reviendrez, c'est sûr. Je ne vais pas voir tout de suite tout maintenant, mais c'est sûr que le gros problème est ça. Hein. Tout le problème, tout le temps de la structure de notre connaissance, c'est les rapports entre l'appréhension et le jugement. Ça, vous le verrez de plus en plus. La scolastique a misé sur l'appréhension. Et le dernier moment de la scolastique, Maritain, qui a misé sur l'appréhension en faisant une intuition. Alors il a été très ennuyé, il a dit « mais non, c'est un jugement ». Mais en réalité, si vous regardez bien, c'est une appréhension. Parce que la scolastique, avec Jean de Saint-Thomas, du reste, il faut bien reconnaître. Hein. Jean de Saint-Thomas, là, je connais bien Jean de Saint-Thomas, parce que je l'ai lu entièrement dans ma jeunesse religieuse. Ce temps-là, on travaillait avec ardeur, et j'ai lu tout Jean de Saint-Thomas dans ma vie, et tout cache-temps, hein, pour connaître ce que représente Saint-Thomas. Eh bien, on voit très bien que Jean de Saint-Thomas, après Occam, après Suarez, au fond, reprend très fort toute une philosophie de l'appréhension. Et la tentation, c'est d'isoler l'appréhension du jugement. C'est de faire de l'appréhension une opération qui existe en elle-même. Alors que, de fait, seul le jugement existe. Mais dans le jugement, nous analysons et nous découvrons une appréhension. Et c'est toujours la très grosse difficulté. Quand on analyse le danger, comme c'est difficile d'analyser, une fois qu'on a analysé, on sépare. Or, l'analyse, c'est la distinction, ce n'est pas la séparation. Et je crois que c'est là le gros, gros problème. C'est pour ça que j'ai lancé un frère pour son étude sur le point de vue de sa licence sur l'appréhension et le jugement dans saint Thomas. Et je crois que ça pourra servir à tout le monde. Parce que c'est un problème qui est très délicat, très difficile, mais je crois capital. Et c'est pas très clair même dans saint Thomas. C'est pour ça que, ça, vous voyez, les choses qui sont dites clairement, il n'y a pas de danger. Mais quand c'est pas très clair, et on comprend très bien, saint Thomas n'a pas besoin de clarifier le problème, il est un théologien. Nous allons voir tout le problème de saint Thomas. Vous allez voir, c'est extraordinairement intéressant du reste de voir ça. De voir que dans notre monde d'aujourd'hui, après Vatican II, on doit faire plus de philosophie qu'avant. On fait juste l'inverse. C'est pour ça que Saint-Père est obligé de rappeler que la philosophie est nécessaire. Mais on devrait, puisque c'est l'ouverture au monde. L'ouverture au monde, c'est la philosophie. Hein, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. C'est la philosophie. Parce que la théologie, ce n'est pas l'ouverture au monde. La théologie, c'est pour le groupe des croyants. Alors, il faut la théologie pour les croyants. Et il faut une théologie mystique pour les mystiques et pour les contemplatifs. Mais il faut une philosophie pour l'ouverture au monde. Alors, c'est très curieux. On veut être conciliaire et on fait juste l'inverse. Ça, c'est les états passionnels. Quand on voit ça, on voit une contradiction, on peut être sûr qu'il y a un état passionnel. Et l'état passionnel, c'est parce qu'au fond, on ne veut plus de métaphysique. Ça, c'est l'état passionnel. Et pourquoi on ne veut plus de métaphysique? Parce qu'on veut exalter la modernité. Alors, on ne dit pas ouvertement, mais au fond, c'est ça. Alors, c'est intéressant de voir ça, parce que il faut quand même être lucide. On a à choisir, c'est bien évident, on a à choisir. Hein. On ne fait pas de la métaphysique parce que le pape nous le demande de le faire. En tant que religieux, oui. En tant qu'homme, on fait de la métaphysique parce qu'on est intelligent. Et qu'on désire être intelligent. Et qu'on désire aiguiser son intelligence. Hein. Faut jamais oublier. Mais en tant que religieux, c'est vrai, c'est très vrai. En tant que religieux, je fais de la métaphysique, je n'y comprends rien, mais je l'en fais quand même parce que le pape me demande d'en faire. Très très bien, chapeau bas. N'est-ce pas? C'est très important. C'est l'autorité et on doit obéir. Mais on fait de la métaphysique parce que notre intelligence nous éveille. Donc ce problème-là, nous le verrons. Hein. Je ne le vois pas maintenant, tout de suite. Mais tenez-vous en haleine, parce que c'est le problème de saint Anselme. Hein. N'est-ce pas nécessairement un certain concept d'être, donc analogique, puisque j'atteins Dieu comme être, l'être premier. Oui. J'ai un concept d'être, mais je n'ai pas un concept de l'être premier. J'ai un concept d'être qui me permet d'avoir un jugement sur l'être premier. Et le débordement de l'essai par rapport au concept d'être. C'est extraordinaire, ça. Et c'est ce que l'existentialisme a compris quand il disait que l'existence est avant l'essence. Ça, c'est la réaction violente contre un certain essentialisme de la scolastique décadente. Et elle était décadente depuis longtemps, hein. C'est pour ça que la glissade aussi rapidement. La découverte de l'acte pur n'implique-t-elle pas une certaine ratio entis, c'est ratio actus, c'est bien évident. Mais l'acte pur, que j'ai dit, il existe un être qui est acte pur. Je n'ai pas de concept de l'acte pur, mais j'ai un concept de l'acte. C'est la ratio actus. Bon, alors ça, on verra mieux quand on sera au terme. Hein. L'étude du statut épistémologique de la théologie naturelle nous a révélé le caractère unique de cette science. Oui. Puisqu'elle commence par une interrogation et non par une expérience religieuse. Mais peut-on vraiment parler d'une nouvelle science ? Non, ce n'est pas une nouvelle science, c'est une sagesse. C'est la science qui éclate en sagesse. C'est du reste très beau de voir ça. C'est le passage de la science. Toute science est analytique. Autrement, elle n'existe pas. Toute science est analytique. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, hein, la science est analytique. Ça ne peut pas être autrement. La science, c'est l'analyse que nous faisons et la recherche des causes. Ça, c'est le propre de la science. La sagesse est un dépassement de la science pour saisir l'être premier, la cause ultime, la fin dernière. Or, la cause ultime et la fin dernière n'est plus analytique. C'est plus une analyse. C'est ça qu'il faut essayer d'arriver à saisir. Donc, peut-on vraiment parler d'une nouvelle science ? Je dis non, ce n'est pas une nouvelle science. C'est parce que justement, elle n'a pas de principe propre. Évidemment, c'est les mêmes principes. Mais c'est le dépassement, c'est l'éclatement de la science par rapport à la sagesse. La considération sur Dieu ferait peut-être partie intégrante de la science métaphysique. Partie intégrante dans le sens d'un dépassement. Oui. La science aboutit. La métaphysique, et c'est le statut unique de la métaphysique, c'est que la métaphysique, science, demande d'être sagesse. Et c'est des grosses discussions, vous savez bien, quand on regarde les discussions par rapport à Aristote, c'est des grosses discussions qu'on ne comprend pas. Regardez la thèse de l'orité. La thèse de l'orité, c'était du reste essayer de montrer comment la métaphysique est science et qu'elle est en même temps sagesse. Mais en même temps, comprenons bien, elle est science et elle est sagesse. Alors, on voit comment quelqu'un comme Wolff va diviser les deux, métaphysique en général, métaphysique spéciale. C'est pas ça non plus. Il faut mieux voir que la métaphysique est science et qu'elle réclame dans son dernier moment le point de vue de la sagesse. Puisque la science regarde les castons. Sinon, ne brise-t-on pas l'unité de la métaphysique qui peut, par ses propres principes, atteindre l'existence de Dieu ? Oui, je suis tout à fait d'accord, il n'y a pas de nouveau principe. Donc, il n'y a pas une nouvelle science. Mais c'est cette science qui devient sagesse. Et elle devient sagesse par elle-même. Ce n'est pas une sagesse infuse, c'est une sagesse acquise. Et elle devient science, elle devient sagesse par la démonstration d'existence de Dieu. De l'exister de Dieu. C'est pour ça que c'est si important. Bon, on y reviendra, donc là, c'est question, hein. Je vais le mettre là-dedans, comme un papier à garder, pour le point de vue de l'appréhension du genre. Mais j'aime mieux pas le faire tout de suite maintenant, parce que ce serait anticipé, alors il ne faut pas trop anticiper. Hein. Alors, l'intention, je termine Saint-Anselme, hein. J'espère que vous en avez assez. Alors, je termine. L'intention, mais si vous avez le temps, relisez. Hein. Ça vaut la peine, vous savez, ça vaut la peine de s'arrêter à Saint-Anselme. C'est l'os majeur. Hein, c'est l'os majeur, pas mineur, mais majeur, de toute cette question de la théologie naturelle. C'est très, très curieux. plus on avance, plus on voit que Saint-Anselme a joué un rôle extraordinairement important. Avant Saint-Anselme, après Saint-Anselme. On pourrait presque dire ça. Vous voyez, avant Occam et après Occam. Mais pas du tout de la même façon. Hein. Mais c'est deux qui ont joué un rôle très très important. Saint-Anselme est dans la montée, Occam est dans la descente. L'intention de Saint-Anselme est sans doute excellente. N'était-ce pas cette intention que nous retrouverons chez Saint-Thomas dans le Contrat Gentilès? C'est quand même énorme de voir que l'intention de Saint-Anselme et l'intention du Contrat Gentilès, c'est la même chose. C'est quand même intéressant de voir ça. Donc on voit très bien la parenté profonde. Saint Anselme a mûri le problème de l'intelligence face au problème de Dieu. Et le Contrat Gentilès en donne la réponse. Je crois que Saint Anselme n'a pas donné la réponse. Il a été, je n'allais pas dire il est trop moine et pas assez métaphysicien, mais c'est un peu ce que je dirais. Vous voyez, il est trop moine et n'a pas encore découvert suffisamment le point de vue d'Aristote. Alors, en moine, il va rapidement, les moines, ça va vite. Parce qu'ils sont pressés. Puis il y a le petit novice qui est là, quoi. Mais là où il est difficile de le suivre, c'est dans sa manière de réaliser cette intention. L'intention est excellente. Sauvons Saint Anselme de son intention. Dieu regarde les intentions. C'est pour ça qu'il est saint. C'est dit dans Samuel, hein. Dieu regarde les intentions. Dieu ne regarde pas les résultats. Saint Anselme ne serait pas saint à cause des résultats. Mais il est saint grâce à ses intentions. À ses intentions, il est saint. C'est ça qui est magnifique, ce qui est beau de voir ça. Car il voudrait, par une pure réflexion, et je crois que c'est ça, car il voudrait, par une pure réflexion sur le contenu intelligible de notre croyance, donc l'appréhension, sans faire appel à nos autres expériences, découvrir la nécessité d'opposer l'existé de Dieu. Arriver par l'appréhension, découvrir l'existé de Dieu. Eh bien, je crois que ça, c'est ce point de vue-là, c'est ce qu'on va retrouver dans tout l'ontologisme. Et c'est pour ça que c'est intéressant. C'est intéressant de voir ça, que Saint Anselme porte en lui l'ontologisme. Il n'est pas ontologiste, mais il porte en lui l'ontologisme. Découvrir la nécessité de poser l'existence de Dieu. Pour lui, en effet, cette croyance qui est l'acte le plus éminent de notre intelligence. C'est très beau. L'acte le plus éminent de notre intelligence, c'est quand nous croyons en Dieu. Il y a quelque chose de vrai là-dedans. Quand la foi, quand nous faisons un acte de foi, notre intelligence est présente, éminenter. Mais peut-être aussi dans une sainte pauvreté. Donc pour lui, cette croyance qui est l'acte le plus éminent de notre intelligence, il le dit explicitement ça, constitue bien notre expérience la plus intime et notre conscience la plus élevée et la plus parfaite. Alors là, c'est peut-être pas tout à fait juste. Oui, puisque le jugement n'est plus un jugement d'intelligence, c'est un jugement de foi. Dans l'acte de foi. Je dis, je crois en Dieu. Bon, ça c'est à ce moment-là, l'intelligence est présente, forcément. Je ne peux pas faire un acte de foi sans que l'intelligence soit présente. Et l'intelligence est présente, elle est assumée par la foi. Alors, si l'intelligence est assumée par la foi, elle est donc éminente à ce moment-là. Elle sert de tremplin, si vous voulez, de disposition vis-à-vis de l'acte de foi. Je crois que c'est juste de dire qu'à ce moment-là, il y a un acte éminent, l'intelligence. Et c'est vrai que si on sert à un acte de foi, c'est peut-être ce qu'il y a de plus grand dans l'intelligence. Mais ce n'est plus une expérience philosophique. Ce n'est plus une conscience intellectuelle, c'est une conscience de foi. Elle doit donc contenir en elle le contenu intelligible de toutes les consciences de nos autres expériences. Qui n'est pas juste. Oui. Très curieux, ça. Ce serait très intéressant. Je crois que c'est là où il faudrait réfléchir. Hein. En réfléchissant intensément sur le contenu intelligible de cette croyance, nous devons pouvoir rejoindre immédiatement, d'une manière unique et immanente, l'existence de Dieu. L'exister de Dieu. Puisque cet acte unique est capable d'assumer tout ce que les traditions religieuses et philosophiques possèdent de plus excellent. L'acte de foi, évidemment, dépasse toutes les traditions religieuses, donc dépasse toute la philosophie. Donc dans cet acte de foi imminent est contenu tout le reste. Donc si je réfléchis intensément sur le contenu de l'appréhension dans l'acte de foi, je dois dire, oui, que c'est ce qu'il y a de plus éminent à ma vie intellectuelle. Donc la raison de ce qu'il y a de plus parfait est là présent. N'était-ce pas là précisément la confusion? Je crois que c'est là la confusion. L'adhésion de foi surnaturelle en l'existence de Dieu est certes l'acte le plus noble et le plus éminent que notre intelligence humaine puisse exercer. C'est sûr. La foi apporte quelque chose d'éminent par rapport à la vie intellectuelle. Donc, au point de vue de la vie, mon acte d'intelligence, support de ma foi, le sycomore pour ma foi, support de ma foi, à ce moment-là, est ennobli. Mon intelligence est ennoblie parce qu'elle sert à l'acte de foi. Donc, c'est l'acte le plus éminent, le plus noble que notre intelligence humaine puisse faire. Car il est surnaturel et donc plus élevé que tout acte métaphysique. Nous sommes tout à fait d'accord là-dessus. Mais cet acte implique, dans son contenu intelligible, une pauvreté intellectuelle, car elle n'a pas l'évidence du mystère auquel elle adhère. La foi n'est pas, c'est cette fameuse chose que Cachetan précise à la suite de saint Thomas, la foi n'est pas une vertu intellectuelle. La foi est un habitus, vertu théologale, qui n'est pas une vertu intellectuelle. Parce qu'elle n'apporte pas à l'intelligence une perfection nouvelle. La foi se réalise dans la pauvreté. Dans la certitude, mais la pauvreté. Ça, c'est ça que je crois que saint Anselme, il l'a vécu, hein, mais dans sa réflexion, il n'a pas été vu. Alors, il a majoré ce support à l'égard de la foi. Et il a mis dans ce support tout le contenu le plus grand qui soit. Si cet acte est capable d'assumer ce qu'il y a de plus excellent dans les traditions religieuses et philosophiques en les purifiant, il le fait d'une manière spéciale. Il le fait dans la pauvreté, en ayant recours à l'autorité, sans posséder le contenu intelligible de ses traditions et de toutes les connaissances philosophiques. On comprend alors comment la laïcisation de cette réflexion anselmienne conduira immédiatement à l'ontologisme et à un immanentisme. Pour saint Anselme lui-même, il n'y a aucun danger, car sa foi est une vraie foi, qui a tout le réalisme de la foi impliquant un jugement d'existence. Et les traditions religieuses et culturelles qu'il assume impliquent elles aussi d'une certaine manière un réalisme. Mais si l'on met entre parenthèses le réalisme de l'acte de foi et des traditions religieuses, que saint Anselme assume, pour ne plus regarder que le contenu intelligible de cet acte et de ces traditions, on s'enferme dans l'intentionnalité de ce qui est compris, tout en continuant de prétendre découvrir l'existence de Dieu. Et c'est à partir de là que naît l'ontologie. Oui, je crois que c'est ça que nous devons essayer de faire. Je ne fais pas plus, hein, simplement pour vous montrer qu'il y a quelque chose de très grand dans saint Anselme. L'erreur consiste à projeter toute la richesse de l'acte de foi du côté de l'appréhension. Or, l'acte de foi est un acte qui implique une pauvreté d'appréhension et une richesse de jugement. C'est ça qui est extraordinaire dans l'acte de foi. C'est pour ça qu'il faut l'aspect volontaire et l'amour, et qu'il faut s'appuyer sur l'autorité. En m'appuyant sur l'autorité, je peux dépasser le contenu intelligible de l'appréhension. Et je m'appuie entièrement sur l'autorité. Oui. Ça fait penser, vous savez, ces échelles extraordinaires, vous voyez, comme ça, qui partent en l'air. Aucun contenu, ils tiennent par terre, ils tiennent très fort. l'autorité divine me permet de faire une acrobatie. Une acrobatie extraordinaire. Hein. On est un acrobate quand on fait un acte de foi. On marche sur sa tête, j'ai le pied en l'air, je ne sais pas trop comment ça fait, mais c'est un acrobate, invraisemblable quand on fait un acte de foi. On s'appuie entièrement sur l'autorité de Dieu. Et on adhère à un mystère qui nous dépasse complètement. Et on n'est pas un imbécile. On adhère pleinement à un mystère. Et le contenu intentionnel, il est très faible, il est très pauvre. Alors on comprend très bien que Saint Anselme voudrait mettre une harmonie dans l'acte de foi. Eh bien, il n'y a pas d'harmonie dans l'acte de foi. C'est une acrobatie. C'est la plus grande des acrobaties qui existe. Mais c'est pour ça que certains disent le beau risque de la foi. J'aime pas beaucoup dire ça parce qu'au fond, il n'y a pas de risque du tout. On est soutenu par l'autorité de Dieu. Il n'y a aucun risque. C'est ce qu'il y a de plus certain. Oui, quand on dit le beau risque de l'acte de foi, c'est la position inverse de Saint Anselme, mais c'est encore de l'ontologisme. Parce qu'en réalité, on s'appuie entièrement sur l'autorité de Dieu. S'appuyer entièrement sur l'autorité de Dieu, c'est pas un risque. C'est pas un risque du tout. C'est un appauvrissement. On va plus loin en s'appuyant sur Dieu. Encorder avec Dieu. Ça, on pourrait dire ça. Encorder avec Dieu. Je m'appuie sur Dieu et puis je marche avec lui par derrière. Je comprends rien du tout, ça n'a pas d'importance. Je comprends rien du tout. Mais je sais que lui voit. C'est suffisant. J'ai une confiance totale. Lui voit. Alors ne cherchons pas à ce moment-là dans l'appréhension toute la richesse du jugement. Ce serait une erreur. Oui, ce serait de vouloir retrouver une harmonie intellectuelle à l'intérieur de l'acte de foi, c'est-à-dire une harmonie entre l'appréhension et le jugement. Or, justement, le propre de l'acte de foi, c'est qu'il y a un dépassement du jugement à l'égard de l'appréhension. Vous voyez, ceci, nous pouvons le dire et nous pouvons l'expliciter parce que nous faisons une distinction entre appréhension et jugement. Mais une philosophie qui ne fait plus la distinction entre appréhension et jugement, l'ontologisme, comment expliquer l'acte de foi ? Ça devient très, très difficile. Ça, ce serait très intéressant à regarder. Hein. Ce serait toute la théologie de l'acte de foi. Alors, nous allons maintenant passer tout de suite un bond énorme, parce qu'on n'a pas le temps de tout voir. Ce serait intéressant de voir Alexandre de Halès. Alexandre de Halès, vous savez bien, quand même un de ces grands théologiens qui est assez extraordinaire et qui est intéressant, puisque c'est le premier franciscain mort en 1245. Alexandre de Halès est intéressant. C'est le premier qui donne une certaine somme théologique. Une certaine somme. Et alors, c'est intéressant à ce point de vue-là. Il y aurait Albert le Grand. Albert le Grand est évidemment très important à voir par rapport à saint Thomas. Les deux grands-pères, hein? Alexandre de Halès et puis Albert le Grand. Il vaut bien avoir deux grands. Et c'est vrai qu'Albert de... On le voit beaucoup moins, Alexandre de Halès. On voit beaucoup plus Albert le Grand. Mais Alexandre de Halès est quand même quelqu'un qui est un très grand bonhomme. Et alors, la théorie de saint Anselme demeure dans Alexandre de Halès, demeure dans Albert le Grand. Le premier qui va avoir l'audace, invraisemblable, de dire non à saint Anselme, c'est saint Thomas. C'est pour ça qu'on n'aime pas saint Thomas, vous savez. Étienne Born, hein, qui est un philosophe chrétien, le philosophe chrétien, hein, par excellence, hein, Étienne Born. Étienne Born n'accepte que saint Anselme. C'est saint Anselme le grand, grand, grand. Et tous ceux qui acceptent saint Anselme, ce sont ceux qui... Saint Thomas, il n'a rien compris à saint Saint Thomas a pu critiquer saint Anselme à cause d'Aristote. Ça, il faut le reconnaître. Hein. Mais aussi à cause de son sens très profondément chrétien. Il a senti très très vite. Alors, c'est ça qui serait intéressant à voir. Vous voyez, ce serait très intéressant, ce serait même palpitant à faire, hein, d'essayer de comprendre comment la critique de saint Thomas à saint Anselme, cette critique de saint Thomas à saint Anselme, et ce... Peut-être ce serait le fil conducteur de toute la position de saint Thomas relativement à sa vision. Alors voyez, dans, je vous dis ça, c'est parce que ça peut être intéressant, de l'être à Dieu, il y a tout un résumé, donc à partir de la page 544, sur tous les grands textes de saint Thomas critiquant saint Anselme. Je crois qu'ils sont tous là. Si vous en trouvez d'autres, vous me le direz, parce que c'est intéressant de compléter, il faut toujours compléter. C'est intéressant de voir les réponses de saint Thomas à l'argument du proslogion. Et je crois que c'est très intéressant de suivre saint Thomas sur ce point de vue-là. Vous voyez, c'est, je crois, et je ne l'ai pas mis assez en lumière là. Je le referai maintenant, je le mettrai en lumière beaucoup plus. Parce que je crois que c'est vraiment cela qui caractérise la position de saint Thomas. Dans la tradition, hein, dans la tradition. C'est le dominicain face à une tradition, vous voyez, qui serait une tradition bénédictine, une tradition qui serait enraciné dans un certain fidéisme, hein, parce que dans l'ontologie, il y a un certain fidéisme. Ça, c'est sûr. Et alors, le saint Thomas qui montre la liberté beaucoup plus grande de l'intelligence. Et je crois que ça, c'est le mérite de saint Thomas. C'est pour ça que saint Thomas nous permet de poser une vraie philosophie, tandis que saint Anselme ne nous permettrait pas. Et l'ontologie non plus. Alors, ici, j'ai envie de m'arrêter avec vous, puisque je crois que quand même ça nous intéresse ici spécialement, de regarder la position de saint Thomas par rapport à ce que représentent les voies d'accès vis-à-vis du problème de Dieu. Alors, saint Thomas va être dans la même lumière que saint Anselme, c'est-à-dire le désir de montrer que l'intelligence peut, par elle-même, donner une certitude sur l'existence de Dieu. Les moyens sont tout autres. Saint Anselme, c'est par l'appréhension. Saint Thomas, c'est par la métaphysique et par la finalité, ce que je crois. Alors, on peut dire que saint Thomas s'enracine, hein, au point de vue théologique, mais ce n'est pas ça que je vais m'intéresser en premier lieu. On peut dire que saint Thomas s'enracine dans toute la tradition des pères, qui a toujours déclaré très nettement que l'intelligence humaine, parce qu'elle participe à la lumière du Verbe, tous les hommes venant en ce monde physique, sont illuminés de la lumière de la connaissance naturelle par leur participation à cette vraie lumière, dont dérive toute lumière de connaissance naturelle participée par les hommes. Donc ça, c'est très très net, et ça est resté tout le temps dans la vie de saint Thomas, ça. Il y a un lien entre notre lumière intellectuelle et le Verbe de Dieu. Donc notre intelligence est capable de remonter jusqu'à sa source et elle est incapable d'atteindre l'essence de Dieu. Voilà la grande affirmation de la tradition. Notre intelligence est capable d'atteindre l'existé de Dieu et incapable d'atteindre ce qu'est Dieu. Donc vous voyez, cette distinction-là, hein, c'est la fameuse distinction entre essence et existence. Alors, cette distinction entre essence et existence, vous savez bien, a pris des modulations extrêmement diverses au cours de la tradition. Alors, évidemment, ça varie le problème. L'essence de Dieu demeure ignorée de la créature. Elle transcende non seulement l'essence, mais toute raison humaine, tout esprit angélique, quant à la puissance naturelle de la raison et de l'esprit. Saint Thomas nous dit ça dans le commentaire des noms divins, chapitre 7, leçon 4, numéro 729. L'intelligence humaine, donc l'essence divine, hein, le quid de Dieu, demeure ignorée de la créature. Elle transcende, excédit, non seulement l'essence, mais toute raison humaine, tout esprit angélique, quant à la puissance naturelle de la raison et de l'esprit. L'intelligence humaine est incapable d'atteindre le quid de Dieu, l'essence de Dieu. Et pourtant, l'intelligence humaine est capable d'affirmer l'existence de Dieu. Vous voyez, là, vous êtes encore pris d'une autre manière. Hein. C'est intéressant à voir ces problèmes. J'ai dit tout à l'heure, appréhension, jugement. Ici, nous voyons le point de vue, l'essai de Dieu et le quid de Dieu. Il y a toujours toujours un lien que Saint Thomas ne cesse de rappeler. L'appréhension regarde le cuir. Le cuir, c'est la cuidité. Le cuir, c'est l'essence. En gros, pour un théologien, le jugement regarde l'essai, regarde l'exister. Aristote avait dit, hein, c'est intéressant, je mets ça exprès pour que vous compreniez, parce que là nous sommes devant quelque chose qui est capital par rapport à la vie de l'intelligence. Aristote avait dit que le ton oti est avant le ti esti. Premier, deux. Descartes dit que le ti esti est avant le ton oti. Ça c'est Descartes. Ça se tient, Aristote, Saint Thomas. Alors faites le petit jeu avec tout ça, hein, c'est très amusant. Le toti, c'est le jugement d'exister. Le ti esti, c'est le crime. Si le ti esti est avant le toti,
le toti, c'est le jugement d'exister. Le tiesti, c'est le crime.
Si le tiesti est avant le toti, vous voyez la position de Descartes. Vous voyez la contradiction à l'intérieur de Descartes. Descartes prétend qu'on peut prouver l'existence de Dieu. Et Descartes dit que le tiesti est avant le toti. Se mettre doigt dans l'œil, là. C'est possible. Si je dis que ti esti est avant le toti, par rapport à Dieu, puisque le ti esti de Dieu, ce qu'est Dieu, toute la tradition dit non, je ne peux pas saisir ce qu'est Dieu. Si je ne peux pas saisir ce que c'est Dieu, je ne peux pas saisir son toti, si le toti vient après du ti esti. Tandis qu'au contraire, si je dis que le toti est avant le tiesti, ah bon, oui, il peut y avoir une certaine connaissance du toti, de ce que l'exister, il peut y avoir une certaine connaissance, oui, c'est vrai, sans savoir ce que c'est que ce qu'est. Mais vous voyez, hein, que comme on est en trapèze, hein, puisque je ne peux pas connaître ce qu'est Dieu, et l'essai de Dieu, oui, je peux affirmer l'existence de Dieu. Comment puis-je faire ce dépassement du jugement à l'égard de l'appréhension ? Vous voyez, c'est ça toute la question. Hein. Toute la question, elle est là. Alors, il faut voir position d'Aristote qui permet ça, position de Descartes qui ferme. Donc, Aristote a une ouverture d'intelligence et Descartes ferme l'intelligence. Contrairement à ce qu'on dit, on dit qu'Aristote ferme l'intelligence et Descartes l'ouvre. Eh bien non, c'est l'inverse. Vous n'avez qu'à regarder ça. Une fois que vous avez compris ce point de vue-là, vous comprenez comment Aristote ouvre, parce que le fait est antérieur, le fait d'exister, est antérieur à ce que je connais. Donc mon intelligence cherche toujours à connaître. Et la réalité est plus que mon intelligence. Tandis que de l'autre côté, non, c'est l'intelligence qui mesure. Bon, alors, nous allons essayer de saisir hein, ce point de vue-là. Donc saint Thomas est très net au point de vue de la tradition. L'intelligence humaine, et ça c'est la grande tradition de tous les pères de l'Église, à peu près unanime sur ce point. Je vous dis, le grand tournant, ce sera Luther. Cependant, nous pouvons, à partir de la connaissance des réalités visibles, remonter jusqu'à cette réalité invisible première que nous appelons Dieu. Saint Thomas, en disant ça, suit tous les pères de l'Église qui s'appuient sur l'Épître aux Romains. Ce fameux chapitre 1, verset 20. À cette réalité invisible, des voies nous conduisent. Ces voies, il faut les découvrir. Elles ne sont pas données dans l'Écriture. L'Écriture simplement dit que du visible, je remonte à l'invisible. C'est très important ça, vous voyez. L'Écriture montre qu'il y a une pensée philosophique. Puisque toute la pensée philosophique, c'est du visible remonté à l'invisible. Vous savez bien ce que Nietzsche refuse. Saint Thomas ne se contente pas de faire une synthèse des voies qui avaient été exposées avant lui. Et cependant, il en fait une. Mais il ne se contente pas de faire ça. C'est ça qui est très extraordinaire. S'il reprend certaines d'entre elles, et nous verrons qu'il les transforme en les élevant à un niveau proprement métaphysique, et nous verrons qu'il ne retient que les arguments à partir des effets visibles, laissant délibérément de côté les voies d'intériorité développées par saint Augustin, ainsi que l'argument de saint Anselme. Autrement dit, dans la tradition, saint Thomas fait un partage. C'est dans un sens qu'on dit que saint Thomas est étroit. Il fait un partage. Il ne saisit, pour remonter jusqu'à l'existence de Dieu, que le point de départ des faits visibles. À ce point de vue-là, il est tout à fait proche des Romains. Et il est tout à fait proche de la tradition. Toutes les voies d'intériorité, la voie d'intériorité de la vérité, la voie d'intériorité de l'amour, la voie d'intériorité de saint Anselme, il les laisse de côté. Là, il y a un partage très très net. Hein, et saint Thomas connaissait la tradition. Il ne faut pas dire que saint Thomas l'ignorait. Pour saint Thomas, en effet, c'est seulement par l'essai concret des réalités existantes de notre univers, l'essai atteint dans une expérience sensible impliquant un jugement d'existence, que l'intelligence humaine est capable de découvrir grâce au principe de causalité, l'essai premier. Saint Thomas n'est pas arrivé à cette limpidité des points de départ. Hein. Il faudrait pouvoir analyser ici les diverses manières dont saint Thomas, au cours de sa carrière de théologien, a lui-même précisé cette recherche. Alors là, il y aurait quelque chose de très très intéressant à faire, parce que ce serait intéressant de voir comment, de fait, saint Thomas a de plus en plus libéré l'intelligence. Autrement dit, de plus en plus, saint Thomas a montré que tout ce que l'intelligence pouvait dire, l'intelligence devait le dire. Et c'était une paresse que de le dire par la foi. Saint Thomas n'est pas paresseux. Ce n'est pas le patron des paresseux. Saint Thomas monte, et ça de plus en plus dans sa vie. Et c'est une chose très étonnante, ça. C'est une des choses qui peut nous scandaliser, nous, parce que le problème n'est peut-être pas tout à fait le même, mais quoique je crois qu'il est tout à fait le même pour moi. Il y a tout à fait le même problème à partir de Hegel. Oui.
Alors, que veut dire Saint Thomas dans ces passages de la Somme où il dit que ce que la foi nous dit, il ne faut pas chercher.
Ce que la foi dit, c'est sûr. Ce que la foi dit et que la foi seule peut le dire. Ah non, c'est uniquement la préambula fidei, c'est très net. Les préambula fidei, lorsque l'intelligence humaine est capable de dire quelque chose, l'intelligence humaine doit le dire. Et c'est pour ça que tout l'ordre des manières d'exister de Dieu n'est pas pris du côté de la foi, mais du côté de l'intelligence. Autrement, on n'y comprend rien. Ça, c'est ce respect extraordinaire de l'intelligence, ce respect extraordinaire de saint Thomas par rapport à l'intelligence. Tout ce que l'intelligence humaine peut dire, l'intelligence humaine doit le dire, dans la mesure où elle est capable de le dire. Elle doit le dire. Et le croyant est heureux de voir que l'intelligence le dit. Parce que l'intelligence le dit mieux que le croyant. Ce que l'intelligence peut dire, hein. Parce que ce que l'intelligence peut dire, et quand on le dit par la foi, on prend une béquille. Une béquille de miséricorde de Dieu. Dieu nous donne une béquille, parce que nous avons de la peine à découvrir par nous-mêmes, nous avons de la peine à faire de la métaphysique, alors Dieu nous donne ça. Mais le jour où notre intelligence peut se libérer de cette béquille, notre intelligence doit le dire. Et doit le proclamer. Et le croyant est heureux de cela. Parce qu'en faisant ça, il proclame la grandeur de Dieu. Parce qu'il proclame le point de vue de l'intelligence. Ça me semble très très net dans la position de saint Thomas. C'est là où il y a une différence entre la position de saint Thomas et la position de saint Bonaventure. Saint Bonaventure n'a pas eu du tout ce souci-là, si vous voulez. Tandis que saint Thomas l'a eu. C'est vraiment là, je crois, où on touche le rôle propre de saint Thomas. Alors vous comprenez qu'à partir de là, hein, c'est facile de dire que saint Thomas a été le père du rationalisme. C'est facile, c'est évident. Comme dire que saint Anselme est le père de l'ontologisme. On oublie que les deux sont des saints, donc tous les deux affirment le primat de la foi. Mais la différence de saint Thomas et de saint Anselme, c'est que saint Thomas va montrer que la foi ne nous donne aucun nouveau concept. Alors ça, c'est net. La foi ne nous donne aucun nouveau concept. Si la foi ne nous donne aucun nouveau concept, tout ce que la foi peut dire, je veux dire, tout ce que l'intelligence humaine peut dire, l'intelligence humaine doit le dire. Donc il faut aller le plus loin possible dans l'ordre de la métaphysique. Et quand on va le plus loin possible dans l'ordre métaphysique, on permet aux croyants d'être plus purs comme croyants. C'est dans ce sens-là que la métaphysique purifie la foi. Ça, il faut le saisir, hein, parce que c'est le génie de saint Thomas, c'est la grandeur de saint Thomas. C'est ce fait d'avoir saisi cela. Je crois qu'on peut dire que c'est à propos de ces voies de l'existence de Dieu que nous pourrions le mieux déceler le progrès incessant de la pensée métaphysique de saint Thomas et son originalité. C'est une piste. Ça n'a jamais été fait. C'est dommage. Parce que je crois que c'est ça qui nous permet de comprendre le génie de saint Thomas. Comment, se dégageant de plus en plus de l'influence d'Avicenne, il découvre la véritable pensée d'Aristote, sa métaphysique de l'acte et de la puissance, et comment il s'en sert en théologien d'une manière toute nouvelle. C'est la métaphysique, on verra, c'est la métaphysique de l'acte et de la puissance qui permet à l'intelligence humaine de remonter jusqu'à Dieu. Ce n'est pas la métaphysique de l'ousia, ce n'est pas la métaphysique de la substance. C'est la métaphysique de l'acte et de la puissance. Alors, saint Thomas va emprunter la métaphysique de l'acte et de la puissance à Aristote, et par là va pouvoir construire les cinq voies. Alors, on va, si vous voulez bien, hein, parce que je crois que ça vaut la peine, si, quand vous serez fatigué, vous me le direz. Alors, à ce moment-là, on se jettera directement sur les voies. Mais j'aimerais ponctuer, tout simplement, c'est une manière d'entrer, on n'a pas de cours sur saint Thomas, c'est une manière d'entrer dans la pensée de saint Thomas, ici, d'une façon qui, je crois, est très éminente et très importante. Premièrement, première œuvre de saint Thomas, le commentaire des sentences. Vous savez bien que c'est toujours très difficile de noter approximativement les dates de saint Thomas. Alors, pour ceux qui s'intéressent, vous avez là une petite table que j'ai donnée, c'est pas la mienne, hein, les doctes en discutent et en discuteront encore jusqu'à leur mort. Et quand on verra saint Thomas dans la vision béatifique, on lui dira « Comment avez-vous composé vos œuvres, hein? Dites-nous vos dates. » On verra que, oui, approximativement. Commentaire des sentences, hein? 1252, du moins, première date, hein? Vous allez voir, successivement, c'est intéressant à voir comme date, 1252. Vous voyez les dates de saint Thomas, hein? Saint Thomas, 1225-1274, début du 13e, 1225, première partie du 13e, le passage du 12e au 13e, hein, c'est le plus émouvant, je crois, au point de vue architecture. C'est un des plus émouvants, et au point de vue sculpture aussi, c'est un des plus émouvants. C'est le passage du 12e au 13e. Saint Thomas se trouve à la charnière, là. C'est déjà engagé le 13e. Après, le 13e et le 14e, hein, c'est quelque chose d'assez particulier, n'est-ce pas ? C'est assez particulier. Et au point de vue architecture aussi, c'est très curieux. Hein. Il y a des choses très belles du 14e, très belles. Palais des papes d'Avignon, hein. C'est quand même très beau. Mais, hein, ça commence à... On sent très bien, ça n'a plus la même pureté, ça n'a plus la même limpidité. Des choses qui... Tandis que 1225, 1240, c'est quand même important, puisque l'intelligence métaphysique, l'intelligence théologique, l'intelligence architecturale, tout ça se tient. Il ne faut pas trop séparer. Hein. Saint Thomas n'a pas fait d'études du facere, mais saint Thomas baigne dans un bain architectural qui est beau. Je ne sais pas comment la Somme aurait pu être produite dans un HLM. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. C'est dans un contexte assez bizarre avec le point de vue. Je ne sais pas. C'est quand même curieux. Il y a sûrement une influence. Ça ne peut pas être autrement. C'est pour ça qu'on ne peut pas transporter la Somme dans notre monde d'aujourd'hui. Les vitraux de Chartres. C'est ça, la Somme. Alors, voyez, donc, tout à fait le début de saint Thomas. Lorsqu'il commente les sentences de Pierre Lombard, saint Thomas a été éduqué par Albert le Grand, et le livre de chevet, c'est les sentences de Pierre Lombard. Et saint Thomas nous a délivré, Liberanos, des sentences de Pierre Lombard. Si saint Thomas n'avait pas été là, on aurait encore les sentences de Pierre Lombard. Or, les sentences de Pierre Lombard, c'est pas génial. Non, c'est pas génial du tout. C'est au fond, tout simplement, un bon livre, un bon manuel qui rassemble des quantités de choses. Il faut mettre une fois ou l'autre son nez dans les sentences de Pierre Lombard, quand on est en théologie, pour s'apercevoir que c'est pas génial du tout. C'est pour ça que saint Thomas les a quittés. Ils avaient été géniales, saint Thomas aurait été au service. Mais au début, il faut bien. Saint Thomas entre dans une tradition. Saint Thomas n'est pas en révolte contre la tradition, mais il va l'assumer. Donc il commente les sentences de Pierre Lombard. Saint Thomas suit évidemment l'ordre des questions traitées par le maître des sentences. Il ne faut pas l'oublier, c'est comme ça qu'on l'appelle, le maître des sentences. C'est ce qui explique que nous le voyons ici traiter la question de l'unicité de Dieu avant celle de son existence. Vous voyez, c'est quand même intéressant de voir l'unicité avant l'existence. Petite saveur cartésienne avant. Parce que c'est pas étonnant, puisque c'est le point de vue d'Avicenne. Ce qu'il ne fera plus, évidemment, dans les autres ouvrages. Mais parce que Pierre Lombard, dans la distinction 2, traite du mystère de la Trinité et de son unité, avant d'aborder dans la distinction 3 la manière dont le Créateur a pu être connu par le moyen des choses créées, saint Thomas lui-même commence par s'interroger sur l'unicité de l'essence divine, ce qui l'amène en premier lieu à se poser la question n'existe-t-il qu'un seul Dieu ? Après avoir démontré qu'il doit y avoir un être premier, unique, absolument parfait, de qui tous les autres tiennent l'essai, saint Thomas montre de trois manières successives qu'il est impossible qu'il y ait plusieurs dieux. Puis il affirme, en se référant à Denis, alors Denis, il faut comprendre c'est qui Denis, hein. Denis, ce qu'on dit habituellement le pseudo-Denis, ce que je n'aime pas parce qu'il n'est pas pseudo, Denis, il a existé Denis, mais il est pseudo par rapport au grand Denis l'aéropagiste. Parce que pendant un certain temps, et saint Thomas croit que Denis, c'est Denis l'aréopagiste, alors ça lui donne une autorité extraordinaire. Pour saint Thomas, Denis, c'est le grand Denis, tout proche des apôtres. Alors ça lui donne une très grande autorité. Alors qu'en réalité, Denis est un cappadocien, un néo-platonicien, cappadocien. Et c'est tout à fait différent au point de vue autorité. C'est intéressant que saint Thomas s'est trompé sur l'autorité de Denis. Mais il ne s'est pas trompé sur la pensée de Denis. Mais il s'est trompé sur l'autorité de Denis. Il l'a salué plus bas que Denis n'avait le mérite de le recevoir. Donc il a été vraiment très disciple de Denis. Il a commenté Denis, les noms divins. Et le commentaire de Denis est quand même une chose très belle. Nous verrons ça. Saint Thomas montre de trois manières successives qu'il est impossible qu'il y ait plusieurs dieux. Puis il affirme, en se référant à Denis, donc comprenons bien, Denis pour saint Thomas, c'est une grande, grande autorité, que puisque toute multiplicité procède d'une certaine unité, on voit bien le contexte néo-platonicien, la multiplicité des êtres doit se ramener à un unique premier principe de tout être, ce que la foi suppose et que la raison démontre. Oui, tout de suite, saint Thomas dit ça. Hein. Et c'est bien le point de vue de saint Thomas, la foi suppose, donc la foi adhère à cette unité et la raison démontre. Donc sans nous attarder à cette question de l'unicité de Dieu, saint Thomas, encore une fois, ne fait ici que suivre l'ordre des sentences. dans ses œuvres ultérieures, donc l'essai passera avant. Relevons cependant deux des raisonnements utilisés pour prouver qu'il n'existe qu'un seul Dieu. Donc je relève simplement. C'est l'unicité qui est première pour saint Thomas dans les Sentences. C'est ça qu'il faut retenir. Pas étonnant, hein, dans un contexte néo-platonicien, l'unité première, c'est l'unité qui est la première chose qu'on regarde. Le premier argument pour montrer l'unicité d'un Dieu, montrer qu'un Dieu unique. Le premier se prend de l'ordre d'antériorité, de postériorité, selon lequel une nature, dit saint Thomas, l'entité, se trouve réalisée. Alors je vais simplement vous lire le commentaire de saint Thomas, du moins son commentaire des Sentences. Pas la peine de prendre de notes, c'est très simple. Toute nature qui se trouve en plusieurs réalités selon un ordre d'antériorité, de postériorité, selon le prius et le posterius, doit descendre d'un premier unique, en lequel elle soit possédée parfaitement. L'unité du principe, en effet, atteste l'unité. L'unité du principier, en effet, atteste l'unité du principe. Mais l'entité se trouve en plusieurs réalités, donc l'entitas, entitas. Ce mot très. Saint Thomas ne dira plus ça après. L'entitas, c'est les premiers mots de saint Thomas, l'entité. C'est très avicénien. Mais l'entité se trouve en plusieurs réalités, dans un ordre d'antériorité et de postériorité. Il faut donc qu'existe un être premier, unique, absolument parfait. Unum primum ens perfectissimum. De qui toutes les autres réalités, tiennent l'essai. Et cet être est Dieu. Il existe donc un seul Dieu. Donc vous voyez l'argumentation de saint Thomas. C'est l'argumentation que toute multiplicité, tout ordre dans le multiple, présuppose un premier. Alors, quel est le principe de ça ?